j'aurais pu vous parler de l'amour maternel, de l'amour paternel, de l'amour filial, de l'amour conjugal, de l'amour fraternel. Mais il m'a semblé qu'un seul amour en était la source, et au fond comme l'alpha et l'oméga. C'est l'amour pour Dieu, quand il vient en réponse de l'amour de Dieu. Toutes nos amours s'enracinent dans cet amour-là. C'est donc de cet amour, dans sa plus grande radicalité, dans sa folle démesure, que je vais vous parler. Il s'agit de l'amour des mystiques chrétiens, dont je vais essayer de montrer comment leur être tout entier aime corps et âme. Comment, en effet, en régime chrétien, religion de l'incarnation, dissocier corps et âme chez l'humain. Dans la pensée biblique, il faut toujours repartir de la Bible. Dans la pensée biblique, l'humain est considéré comme un tout. Pas de dissociation entre le corps, l'âme ou l'esprit. Pas de dépréciation a priori du corps, comme on en rencontre chez Platon, qui, dans un jeu de mots très pessimiste, dit que le corps, soma, est le tombeau, schéma, de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit. C'est le premier chapitre du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et quelques versets plus loin, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Et on rencontrera, tout au long des pages de la Bible, des hommes et des femmes pleinement incarnés. Le corps y est toujours pris en compte. Quelques exemples, bref. Il y a d'abord l'alliance conclue avec Abraham. Une alliance qui se signifie concrètement dans la chair lors de la circoncision. Et puis, un peu plus loin, Jacob, toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 32, Jacob, blessé à la hanche durant une nuit de combat, de corps à corps, mené avec l'envoyé de Dieu, Dieu. Rembrandt en a d'ailleurs peint un tableau tout à fait remarquable, où l'on voit se dégager de ce corps à corps à la fois la lutte, mais aussi comme un embrassement. Jacob fait dans tout son être et par tout son être l'expérience de Dieu. Cette expérience le marque physiquement, parce qu'à partir de ce moment-là, Jacob ira claudiquant. Nous verrons ailleurs les difficultés d'élocution de Moïse. Alors évidemment, il faut y comprendre le passage de la grâce toute-puissante de Dieu à travers les failles de celui qui le laisse faire. Mais néanmoins, c'est d'une infirmité physique qu'il s'agit. Moïse aura par ailleurs de terribles colères. Il va quand même tuer l'Égyptien qui maltraite l'Hébreu et il brisera violemment les tables de la loi. Mais, plus loin encore, dans le désert, Myriam, la sœur de ce même Moïse, va frapper les tambourins et chanter, entraînant dans la danse les autres femmes, après le passage de la mer à pied sec. leur corps entier à ces femmes, se livrent alors à la joie de la louange et de l'action de grâce. Plus tard, c'est David que l'on verra danser de joie devant l'Arche d'Alliance. Il sautait et tournoyait, lit-on, à moitié dévêtu, ce qui lui vaut d'ailleurs le mépris de Michal, la fille de Saül. Puis tour à tour, les psalmistes, les prophètes, vont évoquer à l'envi larmes de tristesse et de joie, frémissements de colère ou de peur, faim, soif, blessure, sang, cri d'acclamation ou supplique, bras tendus, sommeil de fuite, celui d'Élie ou de repos en Dieu. Et enfin, dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus vivre pleinement son humanité dans son corps d'homme. Il naît comme tout un chacun, comme vous et moi. Il grandit dans son village, avec sans doute des copains avec lesquels il court, il joue à la bagarre, il rit. Il tombe et il s'écorche les genoux comme tous les petits garçons. Il pleure, il a faim, il a soif, il dort. Je dirais qu'il fait des câlins à sa maman. Et je ne pense pas, en disant cela, faire de l'évangile fiction. Parce que si Jésus est vraiment homme, alors il a vécu son enfance comme tous les petits d'hommes. Adulte, son corps continuera de se manifester. Lorsqu'il sera fatigué, il dormira. Il aura peur de l'avenir et frémira. Il se réjouira du présent et participera à des fêtes. Il sera triste, il pleurera, il se mettra en colère et il s'émerveillera. Il souffrira dans un corps blessé. Il jeûnera, mais il aura soif, il aura faim et il boira et mangera. Il chantera des psaumes au temple. Et puis, il rira aussi certainement. Car comment participer à des noces sans rire? Surtout, comment attirer à soi des petits-enfants si l'on est austère et surtout si l'on ne rit pas un peu avec eux? Jésus révèle le Père par des mots, lui parole incarnée, et par des gestes, par les actes qu'il pose. Il touche les malades considérés comme impurs. Il se laisse toucher par les pécheurs. Il est totalement unifié, corps et âme. Et toute sa personne proclame la bonne nouvelle du Père. Il est cette bonne nouvelle. Alors, vous avez regardé, j'espère, ou vous le ferez plus attentivement tout à l'heure, la reproduction du magnifique tableau de Rubens, fait dans la maison de Simon le pharisien. Vous l'avez fait en relisant la péricope de l'Évangile selon Luc chapitre 7. Alors, tournons-nous ensemble quelques minutes vers cette scène. À la table de repas de fête, des hommes pieux, tête couverte, attentifs à ce que leur dit Jésus. Ils sont tournés vers lui, mais pas tous avec un regard bienveillant, plutôt comme désagréablement surpris. Surpris par ce qu'ils voient et par ce qu'ils entendent. Pour cause, au pied de Jésus. Attitude qui est tout à la fois celle du disciple et de l'esclave. Une femme, au torse très dénudé, chevelure au vent, Elle enveloppe, avec cette chevelure, les pieds du Nazaréen, qu'elle enduira bientôt du parfum dont on aperçoit le flacon sur le sol, un peu à côté d'elle. La femme, les yeux mi-clos, est entièrement accaparée par son geste. Elle est comme ramassée dans ce geste. Elle ne prête attention à rien de ce qui se dit ou de ce qui se passe autour d'elle. Se dégage une force de désir amoureux presque palpable. Si l'on s'approche plus, que nous regardons mieux, elle pleure. Et ce sont ces larmes, dit le texte de l'Évangile, qui vont laver les pieds du Seigneur. Audace inouïe quand même. Audace folle. Les larmes expriment ici le débordement de l'âme. C'est le corps qui les sécrète. Le corps qui achève de dire un trop-plein de repentance sans doute, mais surtout, comme le souligne Jésus, un trop-plein d'amour. Le peintre insiste sur le mouvement amoureux. Elle serre entre ses bras la cheville de Jésus sur laquelle elle pose le visage, avec une tendresse et un abandon qui n'a cure du regard des autres. Jésus souligne à Simon qu'elle l'embrasse. Elle embrasse ses pieds. Sa chevelure s'entoure le long de la cheville du Seigneur. Elle pleure, certes, mais sa posture indique qu'elle est en paix, en repos, comme enfin arrivée. Venant comme renforcer ce que Jésus explique aux hommes attablés qui s'étonnent et qui réprouvent, les symboles sont placés là par Rubens et ils s'intègrent parfaitement avec la scène du repas, tout en signifiant beaucoup plus. Vous aurez sans doute remarqué que la couleur de la robe de la femme correspond à celle de la tunique de Jésus, comme un lien entre eux. Sur la nappe centrale, d'un blanc lumineux, évoquant les nappes des autels où se célèbrent nos eucharisties et symbolisant aussi la pureté, il y a dans une coupe du raisin, fruit qui donnera le vin du dernier repas. Et au-dessus des têtes, sur un plat tenu par un serviteur, un paon. Un paon avec toutes ses plumes. Cet oiseau a été considéré depuis l'Antiquité, un peu à l'instar du phénix, comme un symbole de renaissance. Ici, bien sûr, c'est la résurrection promise. Le peintre ose présenter une scène à forte tension érotique et à grande charge théologique. Le corps très présent dit ce que la femme a été, une femme publique, et ce qu'elle est à présent, accueillie pleinement par un Jésus qui se laisse, je l'ai dit, toucher par elle, comme il se laisse toucher d'ailleurs par n'importe qui. J'allais dire, par le premier venu, par n'importe quel autre corps. Un anonyme anglais écrit dans un ouvrage qui compte parmi les trésors de la mystique anglaise du XIVe siècle, « Le nuage d'inconnaissance », cet anonyme anglais écrit à propos de cette pécheresse, je cite, « Elle savait bien et elle sentait bien que sa misère était plus horrible que celle de quiconque et que ses péchés avaient mis entre elle et son Dieu qu'elle aimait tant une division. » Mais sur cela, quoi donc ? Descendit-elle pour cela des hauteurs de son désir dans les abîmes de sa vie pécheresse ? Non point. Maintes fois, elle n'avait plus guère en précis souvenir si elle avait été pécheresse ou non. Fin de citation. Le pardon et l'accueil sans condition par Jésus lui confèrent une nouvelle innocence, une nouvelle naissance, une nouvelle pureté. Je souligne l'expression « auteur de son désir », car c'est ce désir d'amour seul, d'amour surtout, que Jésus retient et évoque devant Simon. Ce désir, c'est ce qui saisit le tout de l'être humain et le caractérise. Bien différent du besoin, il est l'aveu d'un manque en soi qui vise un autre que soi. Et il s'exprime par tout ce que nous sommes et par notre corps. Les mystiques, plus que d'autres, mieux que d'autres sans doute, l'ont compris et vécu. Cette expérience que la pécheresse du dîner chez Simon a fait de Jésus, d'autres au cours des siècles vont la faire. Et nous, nous y sommes tous appelés, nous y sommes convoqués par notre baptême. Il y a dans l'expérience une force d'intimité, de rencontre personnelle, unique, et d'immédiateté avec le Seigneur qui dispense de tout autre intermédiaire. Ce qui ne signifie pas que l'on s'affranchit pour autant des sacrements. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ni ce que les mystiques ne disent pas, mais qu'on leur a parfois reproché à tort. Les mystiques, dans la fureur de leur désir, fureur c'est un mot qu'ils emploient souvent, seront toujours dans l'excès, car comme le dira l'un d'entre eux, il n'y a pas de mesure en amour. Tout mode de recherche ou de prétention à la désincarnation, toute tension à n'être et à ne devenir que de purs esprits ne serait, je crois, qu'une pseudo-mystique chrétienne. Car je le répète, le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. La grande Thérèse d'Avila expliquera « Lorsqu'on se passe du secours des objets corporels, nous demeurons secs comme un morceau de bois. » Alors il est intéressant de noter comment des hommes et des femmes qui vivent une expérience forte et authentique de Dieu vont se positionner face à leur corps ou dans leur corps, selon leur histoire personnelle, les influences théologiques, dévotionnelles et culturelles de leur siècle, mais également en fonction de leurs histoires familiales, et puis de leur caractère et de leur tempérament personnel. Nous verrons qu'animés d'un même désir fou, d'une même fougue amoureuse, d'une même sincérité, ils vont pourtant vivre leur rapport au corps de façon bien différente. J'insiste sur le fait que l'homme et la femme mystiques sont des hommes et des femmes de l'excès. La radicalité dans laquelle ils font l'expérience de Dieu demeure un des points fondamentaux communs. Lorsqu'il va s'agir de dire leur expérience, toujours sur injonction divine d'ailleurs, ou sur l'ordre d'une supérieure ou d'un supérieur, parce que eux, personnellement, ils en ont rarement envie, ils vont vite se heurter à la limite des mots. Comment signifier l'indicible d'une rencontre toujours unique? De l'intimité d'une rencontre toujours unique? Inadéquation du langage. Ils auront alors fréquemment recours à des antinomies, des paradoxes, des métaphores. Ils emprunteront avec prédilection le langage poétique. La poésie, c'est ce qui fait éclater les mots et les dilate le mieux peut-être. Langage poétique de la Bible, de l'amour courtois, toujours de la poésie amoureuse. Puis ils s'engageront dans le langage apophatique, qui consiste à signifier ce qui est par la négation, faute de pouvoir en donner une définition précise. Enfin, ils rentreront dans le silence où l'on se tait pour écouter, où l'on se tient au pied du Seigneur, comme la femme chez Simon, en repos. On constate rapidement en les lisant la place du corps dans cet élan d'amour vers Dieu et dans ses expériences de Dieu. Le langage va recourir au sens littéral parfois, et parfois métaphorique, à des mots très concrets pour signifier le corps. Les cinq sens, les larmes, les émotions. Les mots d'amour adressés à l'aimé se teinteront fréquemment d'accent sensuel. Et il n'est pas anodin si le cantique des cantiques va demeurer des siècles durant, depuis l'Antiquité, la grande référence de l'amour avec Dieu, pour Dieu. Grand nombre d'hommes et de femmes en écriront de magnifiques commentaires. D'autres s'y référeront de manière explicite ou pas, mais tous et toutes en sont marqués. Pourtant, ce texte, si fortement érotique, qui parle de l'amour conjugal, de l'union entre un homme et une femme, on s'appliquera à en lire une métaphore entre l'âme et le Seigneur, l'Église et le Seigneur. Le désir, cette ligne rouge du cantique, est pourtant bien chanté avec des mots on ne peut plus concrets. Relisez-le, c'est un poème extraordinaire. Ce désir, sans cesse relancé plus loin que lui-même, est purifié au long de sa course par autant de détachements, de dépossession, de réorientation vers un chemin dont parfois il s'écarte. Parce qu'il est tendu vers l'autre, le désir est la figure précise de l'amour et il brûle tout sur son passage. Certains mystiques vont considérer leur corps comme un élément extérieur qui fait obstacle, qui bloque leur élan vers le Seigneur. Ils s'appliqueront alors à le juguler, car ils le considèrent comme porteur du péché. Et ils s'emploieront à cela en exerçant une ascèse physique rigoureuse. Ils ont un corps à tenir à bonne distance et à réduire. Au XIVe siècle, le dominicain Henri Suzeau, s'écartant en cela de ses confrères rhénans, comme Maître Eckhart ou Tolère, va s'adonner 25 ans durant à des pratiques ascétiques redoutables. Il finira lui-même par condamner au long d'un long chemin, d'un long travail spirituel. À la même époque, la grande recluse anglaise Julienne de Norwich priera pour recevoir une grave maladie. Et en Italie, Catherine de Sienne affirmera qu'aimer, c'est souffrir. Le corps est alors perçu à la fois comme instrument d'expiation du péché et comme moyen privilégié d'une identification aux plaies du Christ et à sa passion et sur la croix. On va l'offrir par amour, ce corps. Mais il faudra que ce soit un corps souffrant. Souffrant, physiquement atteint. Cette perception du corps est liée à une théologie du salut qui se développera plus amplement au XVIIe siècle, théologie dite réparationnelle, de type juridique, où le péché apparaît comme central. Aux mêmes époques, nous rencontrons des mystiques qui vivent leurs expériences d'union à Dieu bien différemment, en posant sur leur corps un regard tout à fait bienveillant. Ils sont un corps, au sens biblique du terme, indissociable de l'âme. Ils sont corps et âme aimant, ensemble. Conscients même du fait que leur corps est bien souvent vecteur au déferlement de passion, ils ne condamneront pourtant ni le corps, ni les passions. Ils s'efforceront de les réajuster à partir de Dieu, à les vivre selon Dieu et vers Dieu, en une volonté mue par le seul désir amoureux. Ils tendront à tout réunifier en eux. L'anonyme anglais que j'ai déjà cité, qui est un grand ami à moi, c'est pour ça que je vous le présente ce soir. L'anonyme anglais explique, je cite, « Dieu ne permettrait pas que je départisse ce que Dieu a couplé et uni, le corps et l'esprit. Dieu veut être servi par le corps et l'âme ensemble. Il assure qu'à l'homme, je cite, il lui plaît tout à fait d'être et il rend grâce du profond du cœur à Dieu de l'excellence du don qu'il lui a fait de cet être. Précisant dans un autre ouvrage, l'Épître sur la